Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Pour comprendre notre place dans l'univers et donner un sens à notre vie, il est essentiel de connaître l'origine de toute chose.
C'est la raison pour laquelle, lors de cette nouvelle série de discussions, nous allons consacrer du temps à étudier le tout premier chapitre du livre de la Genèse. La Genèse elle-même constitue le premier livre de la Bible.
Nous allons donc écouter un extrait de Genèse chapitre 1. Ensuite, Yann poursuivra ses discussions en compagnie de son invité, Robert.
Et Dieu dit : Faisons les hommes pour qu'ils soient notre image. Ceux qui nous ressemblent, qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux, sur toute la terre, et sur tous les reptiles et les insectes. Dieu créa les hommes pour qu'ils soient son image. Oui, il les créa pour qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit en disant : Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maîtres. Et dominer les poissons des mers, les oiseaux du ciel et tous les reptiles et les insectes. Et Dieu dit : Voici, je vous donne pour vous en nourriture toute plante portant sa semence partout sur la terre, et tous les arbres fruitiers portant leur semence. Je donne aussi à tout animal vivant sur la terre, aux oiseaux du ciel, à tout animal qui se meut à ras de terre, et à tout être vivant, toute plante verte pour qu'il s'en nourrisse. Et ce fut ainsi. Dieu considéra tout ce qu'il avait créé et trouva cela très bon. Il y eut un soir, puis un matin. Ce fut le sixième jour.
Merci. Vous venez d'écouter Genèse chapitre 1, versets 26 à 31. Et le moment est venu d'accueillir Robert. Bonjour.
Bonjour Yann, et bonjour à tous. Lorsque Dieu créa les hommes et les femmes, il leur confia toutes les plantes et tous les animaux se trouvant sur la terre. Et il leur demanda de dominer sur eux. Or, c'est sur ce thème que portera notre discussion aujourd'hui. Les desseins de Dieu envers l'homme concernant la nature et son environnement.
Ces questions touchant l'environnement sont d'actualité aujourd'hui.
Et c'est pour cela qu'il est intéressant d'y apporter une perspective biblique.
Dieu nous a donc confié la terre et tout ce qui s'y trouve. Qu'est-ce que cela implique ?
Cela implique que nous avons le droit d'utiliser les ressources que la nature offre pour répondre à nos besoins. Parce que nous avons besoin de nous nourrir, Dieu nous a confié les plantes et les animaux. Parce qu'il faut nous habiller, il les a mis d'eux-mêmes à notre disposition. Nous devons nous loger et nous réchauffer. Alors, il nous permet d'avoir recours à notre environnement naturel. Voilà la façon dont Dieu pourvoit à nos besoins.
Et de nos jours, les civilisations ont beaucoup progressé par rapport aux conditions de vie plutôt primitives des premiers hommes.
En effet, mais quoi qu'il en soit, Dieu a confié aux hommes le monde naturel, leur accordant la possibilité de jouir de ses ressources afin d'améliorer leurs conditions de vie. Chaque découverte scientifique et technologique représente une manière de plus d'utiliser toutes ces ressources, toutes ces bonnes choses que Dieu offre aux hommes. La nature est un don de Dieu, et il nous exhorte à nous en servir pour satisfaire nos besoins et répondre à nos désirs. Voilà le premier principe à retirer des versets lus il y a un instant.
Mais aujourd'hui, beaucoup affirment que l'homme a abusé de son environnement. Certaines ressources naturelles, telles que le pétrole par exemple, commencent à s'épuiser. L'homme est aussi confronté à d'autres problèmes, tels que la pollution de l'air et des eaux, la déforestation et le réchauffement climatique. Vous affirmez que nous avons le droit d'utiliser tout ce que renferme notre planète, mais certains crient que c'est en agissant ainsi que nous l'avons gâché. De plus, le mot « dominer » qui apparaît en Genèse 1, ne donne-t-il pas l'impression que nous pouvons faire n'importe quoi avec la nature?
Il est vrai que de nos jours, nous sommes confrontés à des problèmes environnementaux extrêmement graves. Certains accusent même à tort les chrétiens d'y avoir contribué, du fait de leur interprétation de Genèse chapitre 1. Alors je voudrais vous faire les remarques suivantes. En Genèse 1, Dieu confia la terre aux hommes. et il leur accorda certains droits, dont celui de se servir de la nature pour améliorer leurs conditions de vie. Cependant, Genèse 1 présente aussi Dieu comme étant le Créateur souverain. Il est alors à supposer que les hommes créés par lui vont adopter une attitude responsable et travailleront conduits sous son regard. Mais voilà qu'en Genèse chapitre 3, Adam et Ève désobéirent à Dieu. De ce jour, les êtres humains n'ont plus accordé à l'Éternel le droit de régner dans leur vie. En conséquence, l'homme, au lieu d'assurer une bonne gestion des ressources mises à sa disposition par Dieu, en poursuit une mauvaise.
Ainsi, la cause première des problèmes environnementaux est issue de la rupture de relations entre Dieu et les hommes.
C'est exact, Yann. Au lieu de collaborer avec Dieu dans l'utilisation des ressources de la planète, l'homme veut agir seul et faire comme bon lui semble. Au lieu de prendre soin de la terre, il a abusé d'elle et malheureusement, il en subit les conséquences. Il a rejeté la sagesse de l'Éternel qui lui aurait apporté un certain discernement quant à une bonne gestion des ressources. En conséquence, Dieu a permis à la nature de se retourner contre l'homme.
Mais que pouvons-nous faire aujourd'hui ?
Dieu veut que nous utilisions avec sagesse l'environnement et les richesses naturelles qu'il renferme. Dieu désire un partage plus juste de ses ressources, non seulement entre les habitants vivant aujourd'hui sur la terre, mais aussi avec ceux issus des générations futures. Nous devons nous assurer que les générations à venir pourront elles aussi mener une vie correcte. Alors tous, il nous faut réfléchir sur la façon de mieux prendre soin de notre environnement. Toute initiative, chaque geste peuvent aider.
Mais Robin, beaucoup de nos auditeurs sont issus de milieux fort modestes et certains ont du mal à se nourrir correctement. Ne sont-ils pas confrontés à des préoccupations plus graves encore que celles de protéger leur environnement?
Il est de l'intérêt de tous de travailler ensemble pour protéger l'environnement. Sinon, les pauvres souffriront les premiers des conséquences d'un environnement gâché. Il faut par exemple trouver des techniques dans le domaine de l'agriculture qui n'abîment ni épuisent les sols, mais qui permettent à tous de se nourrir sans épuiser dans les années à venir les ressources naturelles. De même, il serait bon d'encourager l'usage des sources d'énergie renouvelables.
Quelles sont, selon vous, les perspectives d'avenir pour l'homme et son environnement ?
Pour être réaliste, les problèmes environnementaux risquent de s'aggraver et les hommes semblent manquer de volonté pour y remédier. Toutefois, ne baissons pas les bras. Nous pouvons tous, dans la mesure du possible, accomplir de petits gestes prouvant que nous prenons au sérieux notre responsabilité de bien gérer les ressources naturelles. Et si parmi nos auditeurs, certains pourraient exercer une plus grande influence sur le plan politique, nous vous encourageons à promouvoir un juste partage des ressources, ainsi qu'une utilisation responsable de l'environnement. Enfin, le chrétien possède cette espérance que le jour viendra où Jésus recréera la terre et les cieux. Alors, toutes choses deviendront nouvelles. La Bible décrit peu le rôle de la nature dans cette nouvelle existence. Mais nous pouvons déclarer que tout homme vivant éternellement avec Dieu vivra en harmonie avec lui et la nouvelle nature, le nouvel environnement.
Merci Robin pour ces paroles emplies d'espérance. Nous nous retrouverons une dernière fois pour parler du septième jour de la création, qui correspond au jour du repos.
C'est exact, Yann. En attendant de vous retrouver, je vous dis au revoir à tous.
Nous poursuivons tout de suite avec notre courte méditation biblique qui, elle aussi, développe le thème de la création et plus précisément celui de la nouvelle création que Robert vient d'évoquer.
Sandra va lire quelques extraits du livre du prophète Ésaïe au chapitre 65 et ensuite Étienne nous fera part de ses réflexions.
Je vais créer un ciel nouveau, une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses d'autrefois. On n'y pensera plus. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours tout remplis d'allégresse à cause de ce que je crée. Oui, car je vais créer une Jérusalem remplie de joie et son peuple plein d'allégresse.
Notre monde est un monde malade. Le mal et le malheur sont présents à chaque coin de rue, sur chaque sentier. De plus, Nos vies sont marquées par des épreuves, des tragédies qui laissent des traces douloureuses et hantent nos souvenirs. Toutefois, le prophète Ésaïe, dans ce contexte sombre, introduit une espérance merveilleuse qui dès à présent réjouit nos cœurs et nous remplit d'allégresse. Dieu va créer un nouveau ciel et une nouvelle terre. Les événements, tels que nous les vivons actuellement, ne continueront pas à jamais. Non, tout changera, tout passera, et en bien. Sur cette nouvelle terre, notre nouvelle vie sera tellement merveilleuse que nous ne nous souviendrons plus des mauvaises expériences de notre vie actuelle. Nous serons tellement remplis d'une extraordinaire joie de vivre que toutes nos cicatrices émotionnelles et psychologiques seront guéries et appartiendront définitivement au passé.
Ils se construiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et ils en mangeront les fruits. Ils ne bâtiront plus des maisons pour qu'un autre y habite à leur place. Ils ne planteront plus de vignes pour qu'un autre en mange les fruits. Car les gens de mon peuple vivront aussi longtemps qu'un arbre. Mes élus jouiront du fruit de leur travail. Ils ne peineront plus pour rien. Et les enfants auxquels ils donneront naissance ne seront plus destinés au malheur. Ils seront une race bénie par l'Éternel, et leur postérité le sera avec eux.
Le prophète décrit la nouvelle terre en termes qui nous sont familiers. En vérité, nous ne savons pas exactement à quoi la nouvelle terre ressemblera. Ce que nous devons surtout retenir de ces versets est cette image d'une existence où la justice, la paix, la prospérité et la sécurité régneront. Quelle belle espérance ! Car ces merveilleuses qualités manquent dans notre monde actuel. Or, sur cette nouvelle terre, tous ceux qui y vivront jouiront de tout ce qui est nécessaire pour être heureux, sans craindre de le perdre.
Le loup et les agneaux paîtront ensemble. Le lion mangera du fourrage, tout comme le bétail. Le serpent mordra la poussière. Il ne se fera plus ni mal ni destruction sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel.
Une fois de plus, le prophète a recours à des mots familiers et faciles à comprendre pour illustrer des réalités qui se mettront en place dans un autre monde. Sur cette nouvelle terre, l'harmonie régnera au sein même de l'environnement naturel et l'homme y vivra en sécurité. Les animaux sauvages ne représenteront plus une menace. Cette illustration peut nous conduire à penser que les catastrophes naturelles et les maladies disparaîtront elles aussi. Aujourd'hui, la nature et l'homme sont en conflit. L'homme la détruit et la nature se tourne contre l'homme. Mais un jour, quelle joie, ces luttes, ces tourments disparaîtront. Quelle belle espérance!
Merci Étienne. Chers amis auditeurs, que cette merveilleuse espérance éternelle puisse fortifier votre foi et vous aider à persévérer à travers toutes les difficultés de la vie.
Nos deux invités seront de retour la prochaine fois pour conclure nos séries sur le thème de la création. En attendant de vous retrouver, nous vous disons au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.